20h-21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle, avec Mourad Achour sur Beurre FM.
L'exposition Al-Moussiqa consacrée à la musique arabe investit la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août. L'occasion de découvrir une multitude d'objets emblématiques de la musique arabe qui ont été rassemblés pour cette expo. Une véritable expérience visuelle et sonore aux visiteurs. Pour nous en parler ce soir, Véronique Riffel, commissaire de l'exposition Al-Moussiqa, voix et musique du monde arabe. Bonsoir Véronique et merci d'être venue ce soir nous parler de cette belle expo que j'ai eu l'occasion de voir et tu étais présente.
Bonsoir, oui tout à fait, j'étais très heureuse de t'accueillir. C'était... Et j'espère pouvoir accueillir aussi tous les auditeurs de Beurre FM.
Ah bah oui, j'espère aussi. On va en gagner peut-être 4 ou 5 aujourd'hui. Non, je plaisante, je ne sais pas. Comment est né justement le projet de cette exposition? Comment tu as pensé l'exposition? Puisque la musique arabe, c'est... Je sais pas, j'aurais du mal à la définir, puisque ça va du Maroc jusqu'à les pays du Golfe, la péninsule arabe.
Oui, alors, comment est né le projet? C'est une volonté de la Philharmonie. J'habitais encore en Égypte, où j'étais à Alexandrie, à l'Institut français, quand Laurent Bay, le directeur de la Philharmonie, m'a proposé le projet. J'ai tout de suite dit oui, parce que je trouvais ça bien qu'une grande institution comme la Philharmonie s'empare de ce sujet. Pour eux, c'est un peu dans leur ADN, c'est pas le temple de la musique occidentale, ils font la place aussi aux cultures musicales extra-européennes, ils l'ont fait dès le début. Kamel Zekri, qui participe à l'exposition comme conseiller scientifique, me l'a rappelé, il était par exemple au moment où la Cité de la Musique a ouvert, en 95 je crois, à l'ouverture, donc il y a toujours eu des concerts de musique soufie, de musique arabe, mais il n'y avait pas eu une grande exposition et donc c'était le moment de le faire, après avoir fait les musiques noires, les musiques jamaïcaines. Place aux musiques arabes. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que les musiques arabes? C'est la question qu'on s'est posée finalement, parce qu'elles sont pas simples à définir. Et d'ailleurs, elles ont été définies très tardivement comme musique arabe, parce que c'est le congrès de musique arabe de 1932 au Caire qui, pour la première fois, emploie ce terme. Donc le dénominateur commun, en fait, c'était... on a voulu raconter un voyage, voilà, permettre aux gens de partir en voyage depuis dans le temps, donc depuis la période pré-islamique jusqu'à aujourd'hui, et dans l'espace, parce que comme tu le dis, c'est depuis la péninsule arabique jusqu'au Maroc. Et c'est même au-delà, en France, où les musiques arabes ont vraiment se sont épanouies, sont écoutées, sont aimées, et dans le monde entier. Donc le principe de l'exposition, c'est ce voyage dans le temps et dans l'espace, avec comme dénominateur commun la poésie, l'importance de la langue qui est en elle-même très musicale, la langue arabe est très musicale en elle-même, on s'en est vraiment rendu compte. Et puis le tarab, cette émotion qu'on ressent à l'écoute d'une belle musique et cette communion qui existe entre le public et l'interprète, qui donne lieu vraiment à cette extase. Et puis c'est aussi l'écoute, comme c'est une musique de transmission orale essentiellement, l'importance de l'écoute pour l'interprète qui doit connaître par cœur des airs, et puis aussi pour celui qui reçoit la musique, qui doit bien apprendre à recevoir les sons. Et puis ce côté à la fois très festif et en même temps sacré, enfin voilà, cette espèce de grande pluralité au sein des musiques arabes qu'on a voulu restituer. Il ne s'agissait pas de donner une définition définitive, univoque, c'est vraiment montrer les musiques arabes comme des musiques ouvertes.
Voilà,
et le monde arabe est très central finalement, parce qu'il est entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et donc il est riche aussi de toutes ces influences.
Et c'est bien, c'est Al-Moussiqa, parce que c'est dit en arabe, c'est vrai que c'est les musiques et pas la musique. Pour préparer cette exposition, Véronique Riffel, tu as pensé, là tu le dis, d'abord au thème, tu as cherché des œuvres en relation, ou c'est une œuvre, peut-être au départ, que tu as vue, qui t'a inspiré aussi, parce que il y a les musiques, puis il y a carrément un voyage, on commence par, tu le disais, par la préhistoire, et puis après, on finit avec les musiques vraiment actuelles. Ça. Comment tu as préparé donc cette exposition?
Ah oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est une exposition sur les musiques, mais en même temps, c'est une exposition. Donc, je voulais que ça soit très visuel.
Tout à fait.
Et je voulais cette exposition rende hommage à la beauté des cultures arabes, et donc aussi à la beauté sonore, mais aussi à la beauté visuelle. Donc, j'ai trouvé que c'était l'occasion aussi, puisqu'elle est encore assez peu exposée à Paris, c'était l'occasion de faire intervenir des artistes du monde arabe, soit qui vivent encore aujourd'hui dans les pays arabes, soit qui sont dans les diasporas, mais qui sont de culture arabe essentiellement, donc à 95%, je dirais, j'ai fait appel à des artistes, voilà, aussi bien égyptiens, saoudiens même, donc c'est un peu moins connu, marocains, libanais, algériens, enfin un peu toute cette cette diversité du monde arabe. Et donc il y a pas d'œuvres orientalistes, par exemple. C'est vrai que jusqu'à une période encore récente, on connaissait beaucoup les cultures arabes à travers le filtre occidental de l'orientalisme, toutes ces représentations souvent un peu fantasmées du monde arabe. Là, il n'y a aucune œuvre orientaliste. On est directement dans la création arabe. Donc effectivement, il y a quelques œuvres que j'avais en tête au départ. Par exemple, une de Chantav Edition, un artiste arménien qui vit au Caire et qui a fait, qui a dessiné les portraits des grandes stars de l'Égypte, ça s'appelle Icônes du Nil. Et là, dans l'exposition, on a réussi à réunir 54 dessins. C'est une œuvre qui nous a été prêtée par le Mathaf, le musée de Doha. Donc très rare, exceptionnel d'avoir ça à Paris. Et c'est très beau, on voit Oum Kalsoum, Asmahan, Laila Mourad, Samia Gamal. Et puis on voit aussi des personnages politiques. C'est Nasser, qui a beaucoup encouragé les arts, et surtout Oum Kalsoum, bien sûr. Et puis on voit des gens qui jouent à la taoula, des gens qui écoutent le poste de radio. C'était un peu la grande messe d'écouter Oum Kalsoum tous les premiers jeudis du mois à la radio Voix de l'Orient. Donc ça, c'est une œuvre effectivement que j'avais en tête. Et puis j'avais aussi en tête des œuvres, par exemple, comme celle de Youssef Nabil, qui a fait ses très beaux portraits de Natacha Atlas.
Ah oui.
Qui avait fait ses couvertures et qui a fait ses photos colorisées qui sont très belles. Et puis les portraits art court aussi. On voit tous les musiciens de l'exil. Et c'est vrai que quand on pense au studio art court, on pense vedettes de cinéma d'Hollywood ou des grandes stars françaises.
Or, il y avait Warda,
il y avait Farid El Atrache, il y avait toutes ces stars.
Ces stars qui vivaient à la fois en France, mais ceux qui venaient du Maghreb, du Moyen-Orient. C'est vrai, monter une exposition d'une grande envergure qui témoigne, comme dit le dossier de presse, de la vitalité de la création musicale contemporaine dans le monde arabe. Je t'écoute depuis tout à l'heure. C'est vrai que quels sont les objectifs et surtout la mission de cette exposition? Parce que c'est vrai que c'est beau à voir, on apprend. C'est quoi pour toi?
Alors,
parce que ça t'a pris, tu me disais, lors de l'exposition, au moins deux ans de prépa.
Deux ans, ouais.
Moi, je trouve que c'est peu.
Oui.
Monter une telle exposition.
En fait, c'est deux ans, mais si tu veux, c'est plus aussi, parce que moi, j'ai toujours eu à cœur, dans mon parcours personnel et professionnel, de mettre en valeur les cultures du monde arabe ou du monde musulman, ou du monde arabo-musulman. Donc, en fait, c'est de là depuis plus longtemps que deux ans. Mm-hmm. Deux ans, c'est vraiment la période, parce que je suis pas toute seule, il y a toute une équipe. Donc, c'est souvent tous les gens de la philharmonie qui ont travaillé avec moi, et puis aussi les conseillers scientifiques, les artistes que j'ai consultés. Ça, c'est deux ans, mais effectivement, après, ça s'improvise pas, c'est des années de fréquentation, d'amour partagé pour les cultures arabes. Donc, l'idée, c'était vraiment, dans une période de stigmatisation des cultures, enfin, du monde arabe, de pour une fois parler du monde arabe sous un angle culturel et artistique. Je dis pour une fois, il y a beaucoup d'initiatives, mais encore une fois, la philharmonie de cette ampleur sur 1000 mètres carrés, comme ça. Aller à l'encontre des préjugés sur le monde arabe, montrer vraiment ses joyaux. Et puis restituer une fierté d'être arabe pour les Parisiens ou les gens de visite qui sont de culture arabe, d'origine arabe, montrer que il y a de quoi être fier, parce qu'il y a tout ce patrimoine ancien qui continue à vivre, qui est sans cesse renouvelé, recréé par des artistes d'aujourd'hui. Donc le lien entre ce patrimoine et cette création d'aujourd'hui.
Ça, c'est bien. C'est vrai que tu as imaginé cette expérience, je dirais, cette exposition. Il y a beaucoup de choses qui t'ont guidé, tu me le dis. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Parce qu'il y a énormément de choses. Il fallait choisir des choses aussi attirantes, comme le fameux tableau de 50 portraits du musée du Mathaf. Voilà, c'est le musée en arabe, en français, de Doha. Voilà. Tu as mis en lumière certains choix artistiques, c'était voulu, dans la musique et la culture arabe d'une façon générale. Parce que c'est plusieurs galeries, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Il y en a, je sais pas combien. Et puis chaque galerie, c'est ludique, interactif. Mm. On apprend des choses. Il y a beaucoup des tableaux, des choses, mais on écoute. On écoute beaucoup de choses avec le casque.
Casque est remis à l'entrée.
Voilà, remis à l'entrée. Il y a l'histoire, il y a la poésie, il y a des choses qui sont racontées. Ça, c'est aussi du boulot.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans chaque, donc il y a l'exposition se décline en 7 espaces différents, voilà, qui sont un peu comme des paysages immersifs où on est immergé dans un désert ou dans un cinéma égyptien ou dans un café de Barbès, en passant aussi par une zaouïa africaine, etc. Donc c'est vraiment l'idée aussi de prendre le temps de s'immerger dans cette temporalité propre au monde arabe, parce que c'est ça aussi la musique, c'est une autre temporalité. Et puis, effectivement, grâce à ce casque qui est remis à l'entrée, chaque visiteur peut aussi faire son propre parcours, ses propres choix, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, on peut pas forcément tout écouter, ou alors il faut revenir, hein, ce qui est très bien passer, aussi.
Voilà, moi je dirais une semaine.
Voilà. Tout à fait, parce que on a voulu aussi rendre l'hospitalité qu'il y a dans les pays arabes. Donc, les espaces, à mon avis, enfin, j'espère, hein, parce que c'est ce qu'on a fait avec la scénographe Mathalie Crassé. On a voulu faire des espaces accueillants où les gens se sentent bien, où ils peuvent rester. Et effectivement, on se rend compte que la durée de visite des personnes qui viennent est plus longue que celle habituelle. Parce que les enfants aussi peuvent jouer, il y a des espaces pour eux, ils peuvent s'initier à certains instruments de musique, ils peuvent apprendre, pour ceux qui sont pas de culture arabe, ils peuvent apprendre à écrire leur nom en arabe, ils repartent avec ils peuvent l'imprimer après, donc ils peuvent repartir chez eux avec. Il y a aussi un tapis magique où quand on marche dessus, il y a des motifs des arts d'islam qui changent. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis aussi pour les adultes, on peut s'installer confortablement dans un café, choisir son scopitone dans le café de Barbès, jouer au domino.
Ouais, enfin,
il y a plein de choses à faire.
Il y a le café.
C'est plus qu'une expo, c'est un peu une expérience de vie.
Voilà. Et puis ce café-là avec les scopitones, c'est l'immigration, on va dire. C'est la musique de l'exil, c'est dans cette galerie. Et puis il y a le café pensé, réfléchi par Hassan Hajjaj, qui vit à Londres, qui a fait beaucoup de choses. Et là aussi, son café, c'est actuel.
Oui, on peut lire des livres aussi, on peut se poser, on peut regarder des extraits de chaînes YouTube, puisque c'est aussi montrer l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion, la circulation des musiques arabes
aujourd'hui. Parce que la musique arabe, elle est en mutation, mouvement continuel. C'est pas une musique c'est pas comme Kalsoum. Justement exposé, en tout cas avec toute l'équipe, vous avez réussi à agencer, à assembler certaines œuvres variées pour cette exposition. L'exposition, il y a beaucoup de musique. On va s'arrêter pour écouter. On va dans les musiques un peu de l'exil. C'est vrai que Rainara, c'est un groupe de Sidi Blabas, mais qui a fait son premier disque, c'était au début des années 80-82, en France, avec des musiciens qui venaient de l'Algérie, d'autres basés en France. On va les écouter dans le fameux titre Zina, et c'est ton choix, Véronique Riffel, qui est aussi commissaire de l'exposition Al Moussiqa, voix et musique du monde arabe. On parlera aussi de ton parcours qui est, ma foi, très riche. Mais là, j'ai commencé par dire commissaire de l'exposition dont on parle ce soir jusqu'à 21h sur Beur FM.
ولا مهموم بابك حلت العيون نجمات النجوم في راني لا مغروم يا سينا
Café des artistes. Continue dans un instant. 20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle, avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Merci Véronique Riffel d'être venue ce soir. On poursuit notre émission. On a écouté un extrait de Inta Omri Dom Keltoum, qui d'ailleurs, on disait plein de choses, mais juste, j'ai oublié de dire que, voilà. Pour l'affiche qu'on voyait dans le métro et l'affiche de l'exposition Al Moussika, voix et musique du monde arabe, c'est elle qu'on voit.
C'est pour ça que je disais qu'elle était incontournable, c'est qu'on a cherché pour l'affiche le dénominateur commun à l'ensemble des musiques arabes. C'est difficile de résumer tout ça en une image, et ce qui s'est imposé, voilà, Oum Kalsoum. Même si on a voulu ne pas réduire les musiques arabes à Oum Kalsoum, c'est quand même elle qui s'est imposée naturellement pour l'affiche.
Non, il n'y a aucun souci, moi ça m'a pas du tout surpris, au contraire je trouvais ça un bel hommage aussi à cette dame. Philharmonie de Paris.fr/Al-Moussika pour les orages, je disais tous les jours, effectivement c'était le jour, bien sûr. Les musées sont fermés un jour par semaine et c'est le lundi. À travers Al Moussika, le public pourra comprendre justement que cette musique arabe s'est construite et façonnée de différentes façons, j'allais dire, mais surtout époques et étapes. Et c'est ce qui est dit dans cette exposition. Qu'est-ce que tu as appris, toi, en préparant cette exposition? Tu connaissais beaucoup de choses, mais est-ce que ça t'a surpris de dire « Ah, tiens, non, pas du tout ». Parce que moi qui connais la musique arabe, j'ai appris des choses.
Hein. Par exemple, je ne connaissais pas les stambali en Tunisie.
Les gnawa ou les diwan.
Voilà, c'est ça. Je connaissais les diwan, les gnawa, mais effectivement, je n'avais pas pensé en fait, qu'en Tunisie aussi existaient des communautés issues de l'esclavage, ces communautés noires qui ont donné lieu à ces rituels, ces cérémonies gnawa, enfin, qui sont comme celles des gnawa en fait, au Maroc. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ces photographies d'Augustin Le Gall qui montrent le rituel à travers un personnage, Riyad, qui est un des derniers. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que certains genres musicaux sont en danger, faute de transmission, faute d'intérêt parfois de la jeunesse. Et puis aussi parce que parfois, ils sont dans ces répertoires musicaux sont dans des pays en guerre. C'est le cas au Yémen ou c'est le cas... en Syrie, bien sûr, et puis en Irak, où certains maqams, etc., ceux qui en gardent la mémoire, voilà, sont très âgés, et donc on a voulu aussi attirer l'attention du public sur ces répertoires à préserver.
Et puis la musique stambali, tu en parlais, effectivement, elle est moins à la mode qu'en Algérie, au Maroc, c'est peut-être pour ça qu'on connaît moins. Et puis cette musique, pour comprendre la musique arabe, qui a toujours été, je le disais tout à l'heure, en perpétuelle mutation, jamais figée, c'est pour ça qu'il y a certaines musiques qui disparaissent, remplacées par autre chose. Aujourd'hui, la musique arabe, c'est aussi de l'électro, du rock, de la pop.
Ouais, c'est ça, elle est multiforme, vraiment.
Voilà, il y a pas que... Et en parlant de ces musiques, autour de cette exposition qui a débuté le 6 avril jusqu'au 19, je le rappelle, il y a eu des concerts. Moi, j'ai assisté à un beau concert, je sais plus quand c'était, je crois que c'était à l'ouverture le 7, oui. Avec l'IRFA, voilà, l'ECFA, et puis le groupe
27 Soul, voilà, et Love and Revenge.
Tout à fait, le Palestinien, les Libanais, les Égyptiens. C'était un mélange, mélange du monde arabe, des pays du Cham, comme je dis chez moi. Et il y a toujours comme ça des week-ends. Il y avait aussi de la musique maqam, des luthistes comme Nasser Chama.
Ouais, et puis il y avait aussi un très beau concert de Anwar Ibrahim.
Tout à fait.
Donc vraiment, c'est déjà rien qu'en un week-end, il y avait une variété immense, parce qu'entre chacun de ces artistes qu'on vient de nommer.
Pour ceux qui ont raté, c'est pas fini. Le 12 mai, le week-end.
Il y a un autre grand week-end, le 12 et 13 mai. Et là aussi, on va voyager en Afrique, arabisée, puisque, comme on le disait, les musiques arabes s'épanouissent sur plusieurs continents, dont l'Afrique, bien sûr. On a parlé tout à l'heure des gnawa et des stambali. Il y a aussi des musiques en Mauritanie, au Soudan, etc., qui sont vraiment intéressantes. Donc, il y a une soirée qui est consacrée à ça. Et puis, vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur, et je suis très, très heureuse vraiment que la Philharmonie ait accepté de les inviter, c'est l'ensemble El Mawsili, qui est un ensemble de musique arabo-andalouse, une école qui est installée en Seine-Saint-Denis, avec un travail vraiment formidable. Et donc, on pourra les écouter dans la grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie.
Chapeau.
Le dimanche 13 mai. Donc ça, c'est une première et c'est une grande fierté pour eux, pour nous, pour tout le monde, que ces musiques aient droit de citer comme ça dans cette salle, vraiment, qui est une forme de consécration, en fait.
C'est un groupe, c'est une formation musicale qui est née en France, qui est née à Paris, à Saint-Denis.
Les membres fondateurs
viennent d'Algérie, d'Almoussilia ou d'autres formations musicales de musique arabo-andalouse, mais la plupart ont appris, ne parlaient même pas l'arabe, ont appris l'arabe, ils chantent, et ça c'est grâce aux...
Formidable école de vie, ouais.
Voilà, et ça c'est grâce à l'enseignement de Farid Ben Sarsa, le directeur de cette... directeur musical, le chef d'orchestre. Il y a quoi d'autre à...
Alors il y aura aussi des rencontres. Moi, j'animerai une rencontre avec Nadia Mefla, qui est spécialiste du cinéma arabe, pour la place très importante de la musique dans le cinéma arabe. Évidemment, du temps des grandes comédies musicales égyptiennes, mais encore aujourd'hui, parlera de films aussi plus récents, peut-être Les Bienheureux, par exemple, ou En attendant les hirondelles.
Où il y a de la musique, carrément, un groupe du Maui Africa qui joue. Oui.
Voilà, et tout à l'heure, on a écouté Yazina de Rainer Rai, c'est aussi une musique qu'on entend dans le dernier film de Latif Kechiche, Mektoub My Love. Donc voilà, il y a cette présence très importante.
Et les Rainer Rai sont présents carrément dans le film de Kara Moussaoui, en chair en os sur
ça,
scène.
C'est ce que j'allais dire aussi. Donc ils sont très présents et je trouve ça formidable parce qu'on dit par exemple le Rai est un peu perte de vitesse, mais je pense que quand même...
Il y a un retour.
Il y a un retour et dans l'imaginaire collectif, ça reste une musique très festive, très, et en même temps très nostalgique, très, très forte.
C'est bien, donc ça c'est le week-end du 12 mai.
12 et 13 mai, ouais.
12 et 13 mai, notez-le sur vos agendas.
Sinon... Et il y a aussi, pardon, une soirée en hommage aux grandes divas du monde arabe. On parlait d'Oum Kalsoum, vraiment la postérité aujourd'hui d'Oum Kalsoum à travers des grandes...
C'est vrai que c'est l'une des chanteuses imitées, comme dit l'eau jamais égalée, mais on chante tout le temps, même moi, j'essaie parfois de reprendre Oum Kalsoum, bien sûr, avec ma voix suave. Tu as sélectionné plusieurs objets emblématiques de musique arabe, donc il y a des manuscrits, des chansons, des textes de chansons manuscrits, des costumes, des photographies, des tableaux, des portraits, des affiches de films, des clips vidéo, enfin, ou scopitone, quoi d'autre, je sais pas, des décors, des instruments, des instruments de musique, des illustrations sonores. Il y a beaucoup de choses, effectivement.
Il y a beaucoup, beaucoup de supports, ouais.
Il y a beaucoup de supports. Et bien sûr, tu le disais au début de cette émission, et je regarde l'heure en même temps, je me dis peut-être ce sera le mot de la fin. Avant, tu as réussi à soulever quand même beaucoup de questionnements relatifs à des sujets de société par cette expo, que les Arabes ont toujours été des grands artistes, malgré les guerres, un contexte économique parfois difficile. C'est un défi, un pari, cette exposition.
Oui, parce que effectivement, on aurait pu faire une exposition. On parlait du rail sur le rail, vraiment prendre un sujet beaucoup plus restreint. Mais on s'est posé la question au début. Une exposition, c'est aussi faire des choix, c'est des partis pris, c'est une orientation. Et finalement, avec l'équipe de la Philharmonie, on a choisi de pas faire ce choix justement trop restreint, trop restrictif, et de raconter cette histoire des origines jusqu'à aujourd'hui, pour montrer qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a toujours cette poésie, qu'il y a toujours cette intensité, et pour montrer vraiment toutes les facettes et toute cette richesse et cette diversité des musiques arabes, toute leur beauté, toutes les influences multiples et les influences qu'elles-mêmes ont eu sur d'autres répertoires en Asie, en Europe, en Afrique, etc. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est rendre hommage à cette...
Tu as réussi avec ton équipe, parce que c'est un bel hommage. Cette musique qui a influencé, qui a été influencée aussi. C'est vrai qu'autour de l'exposition, on le disait, se développe une riche programmation, donc pour le week-end du 12 et 13 mai.
Il y aura aussi des interventions d'artistes dans l'exposition même. Notamment le 7 juin et puis le 21 juin pour la fête de la musique. Il y aura au sein même de l'exposition, va se transformer aussi en scène de danse, de concert. Il va y avoir des comédiens, des danseurs, des musiciens.
Et ben, pour le programme,
prenez les dates.
Voilà, pour le programme, donc philharmonie 2 par un seul mot .fr/elmusica. Quels sont tes coups de cœur parmi les œuvres que vous présentez en ce moment dans cette expo? Question difficile.
J'ai envie de, bon, je vais, ça serait un peu facile peut-être comme réponse de dire toutes, puisque déjà, vu l'étendue du sujet et l'extrême richesse des œuvres, j'ai dû faire des choix vraiment très difficiles. Donc ce que j'ai réuni là, c'est vraiment déjà, j'ai dû éliminer malheureusement beaucoup d'œuvres. Mais si je vais parler d'œuvres qui me tiennent vraiment à cœur... J'aime, comme je le disais, j'aime énormément Baïa, j'aime les photographies de Youssef Nabil que je trouve vraiment très belles, les dessins de Chantave Édition. J'aime énormément Love and Revenge aussi, donc ce projet d'artiste qui ressuscite le cinéma égyptien à travers un mix d'extraits de comédies musicales, remixés avec des tubes aussi d'hier et d'aujourd'hui. Ça, j'aime vraiment beaucoup ce projet, Love and Revenge. Et puis, ouais, il y en a énormément, mais peut-être aussi ce mur de cassette là de Maham Alour, qui est assez étonnant. Et puis aussi les grandes photographies de Maïmouna Guérézi, qui sont vraiment belles. Et puis aussi les Mystic Dance de Najia Mehadji, cette artiste marocaine qui s'est inspirée un peu de la danse des derviches tourneurs. Et elle arrive vraiment, dans des œuvres plastiques, à imprimer un rythme, comme celui des Gnawa aussi, ou des... Donc c'est très beau. Donc et puis les photographies de Leïa Alaoui aussi.
Oui.
Cette artiste tragiquement décédée dans les attentats de Ouagadougou il y a 2 ans. Ouais. Elle a fait une très belle série, Les Marocains, qu'on accompagne de musique nawa, des musiques qu'elle écoutait, qu'elle aimait. On a travaillé avec sa famille autour de ce projet.
Bah tu aimes tout. Et puis si vous y allez, prenez une photo avec le Tarbouche, parce qu'ils sont à la disposition de tout le monde. Vous pouvez jouer la derbourka comme moi, mal, mais vous pouvez
et même
jouer
le Oud, le Khanoun,
vous pouvez jouer aux instruments. Donc il y a tout ça à disposition. Voilà, moi je me suis amusé comme un petit.
Venez avec des amis, avec votre famille, il y en a vraiment pour tous les âges, pour
tous
les goûts.
N'ayez pas honte, parce que moi j'ai joué la derbourka, il y avait tout le monde qui est venu.
On peut en jouer de façon décomplexée.
Faites-le. En tout cas, tu
peux chanter aussi.
Ça j'ai pas osé. Toi tu j'ai dit juste commissaire de cette exposition de Moussika qui se déroule à la Philharmonie, mais sinon tu es critique d'art, programmatrice culturelle spécialisée dans les arts du Moyen-Orient et d'Afrique. Tu as été aussi directrice pendant des années
et
de l'institut, 8 ans de l'institut
d'islam,
mais aussi de l'institut français d'Égypte à Alexandrie. Qu'est-ce que tu n'as pas fait encore? Je regarde ce que j'ai noté, j'ai pris des notes. Tu es l'auteur aussi de quelques livres et commissaire aujourd'hui de la présente exposition dont on parle, Moussika de l'affaire La Monnaie de Paris. On finit l'émission. Tu parlais de ces musiques électro, tango de Soap Kids, de Yasmine Hamdan, qui maintenant officie toute seule en solo. C'est juste magnifique, ça date. Le groupe n'existe plus. Yasmine Hamdan a une voix juste magnifique. C'est un cadeau pour toi. Merci beaucoup, Véronique.
Finir ça en douceur, cette émission.
Voilà. Merci beaucoup d'être venue ce soir.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Voilà. Et philharmonie.de paris.fr/Al-Moussika pour le reste de cette émission. Merci à Fatma Zola d'avoir réalisé cette émission. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à l'écoute de Beurre FM et la suite des programmes Vanessa jusqu'à minuit. Au revoir.
تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذا أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغدا الأحلام الغدا والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذا أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغدا الأحلام الغدا والقبل وكل I'm not afraid to die.
Retrouvez Café des Artistes tous les jours de 20h à 21h sur Beurre FM.